Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois micro. Notre invité a connu une grande carrière journalistique. On peut affirmer sans hésitation qu'au gré du temps, sa rigueur, son objectivité et sa manière, pourrait-on dire, pédagogique de présenter des enjeux politiques complexes pour nous les rendre compréhensibles, ont fait de lui un grand sage. Pas étonnant qu'il se retrouve encore parfois au sein de panels d'analystes politiques. Un journaliste de grande envergure qui a passé de nombreuses années à Radio-Canada et qui a bien voulu accepter notre invitation à ce micro. Avec nous, grand plaisir de recevoir Daniel Lessard. Bonjour!
Bonjour Armand.
Ça va bien, malgré la retraite, on ne vous voit plus assez souvent maintenant.
Écoutez, comme on dit communément, j'ai fait mon temps, j'ai apprécié chaque seconde que j'ai passée dans ce métier-là, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, laisser la place aux plus jeunes qui se débrouillent fort bien.
Oui, vous êtes passé à autre chose parce que maintenant, vous avez embrassé, comme on pourrait dire, la carrière de romancier. Mm-hmm. Et ça va drôlement bien parce que vous êtes assez prolifique.
Un par année depuis la retraite. C'était pas un objectif, c'est juste que moi, la plus grande déformation que j'ai, c'est d'avoir été journaliste, où tu es habitué, tu l'as fait, Armand, tu sais de quoi je parle, d'où on est habitué à travailler très rapidement avec des heures de tombée. Et c'est un peu la même chose quand j'écris un roman, une fois que je sais où je m'en vais, ce que je veux faire, ça se passe assez rapidement, je reviens là-dessus une ou deux fois pour m'assurer qu'il n'y a pas de coquille, qu'il n'y a pas de rien là, d'incohérent. Mais je ne traîne pas. Moi, au bout de 6-7 mois, je suis un peu tanné de mes personnages, je passe à autre chose ou leur faire vivre une autre expérience. Alors, j'ai un rythme de travail qui est un rythme de journaliste où tu es habitué à travailler rapidement. Et pas seulement ça, Armand, c'est que ce que j'aime le mieux, moi, c'est travailler dans le bruit. Vous savez, dans une salle des nouvelles, c'est toujours extrêmement bruyant, il y a du va-et-vient, il y a des appels sur les interphones, tout le monde parle en même temps, et il faut que tu te concentres quand même sur ton texte de radio ou de télévision pour les nouvelles. Alors, c'est un peu la même chose quand j'écris. Il n'y a pas si longtemps, mes deux fils étaient encore à la maison, ils étaient très bruyants, je pouvais compter sur eux. Mais il m'arrive d'écrire le matin en écoutant les Beatles ou les Rolling Stones.
Vraiment.
Ou Daniel Bélanger ou Charles Aznavour. Oui, j'ai besoin de... C'est besoin de savoir que la vie continue autour de moi.
Ah bon. On va sûrement parler beaucoup de ce que vous écrivez, ces romans qui sont quand même des romans, c'est peut-être pas des polars, mais des romans avec des intrigues policières intéressantes. Mais on va surtout d'abord parler de cette carrière. Au départ, disons que vous êtes quelqu'un qui est né en Beauce. Vous êtes un Beauceron, un vrai Beauceron.
Et fier de l'être.
Oui, comme on dit, les Beaucerons font toujours leur chemin et même Dieu ne peut les empêcher de le faire.
C'est tout à fait vrai. Les Beaucerons sont têtus, indépendants, un peu orgueilleux, parfois prétentieux, mais qui attendent après personne pour faire ce qu'ils ont à faire.
Alors, quand vous étiez jeune, est-ce que vous faisiez vraiment tout ce que vous vouliez? Parce que vos parents vous ont mis pensionnaire et je ne pense pas que c'était nécessairement la voie désirée.
C'est-à-dire que, bon, j'ai grandi sur une ferme. Sur une ferme, tu commences à traire les vaches à 6-7 ans. Tu vas aller chercher l'été au petit matin et t'écure les cochons et t'es tout le temps là-dedans et j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé le travail sur la ferme. Je l'ai fait parce que, bon, il fallait aider mon père. On était une grosse famille, mais j'ai jamais aimé ça. Et quand on m'a suggéré, et c'est le curé de la paroisse, comme dans toutes les paroisses, choisissait deux ou trois garçons qui, selon lui, avaient la vocation pour devenir prêtre. Quand j'ai été l'heureux élu et qu'on m'a dit « tu vas aller au séminaire de Saint-Georges, pensionnaire », j'étais très content. Je me suis ennuyé un peu, il y a eu une période d'adaptation, mais qui a été très, très courte. J'ai beaucoup aimé la vie de pensionnat. Le groupe, on était dans mon année en élément latin. Il y avait élément latin A et B, donc il y avait à peu près 80 nouveaux arrivants. Il y avait trois Daniel Lessard dans le groupe, typiquement Beauceron. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ça me soulageait. Bon, évidemment, quand je revenais pour les vacances l'été, il y avait encore les travaux de la ferme. J'étais pas malheureux là, sur la ferme, mais j'aimais pas ça.
Mais entre le grec et le latin et le hockey, votre préférence était facile.
Ma préférence a toujours été les sports. C'est ce qui m'a gardé en vie pendant mon cours classique. C'est ce qui m'a empêché de décrocher, ce qui m'a empêché de rentrer à la maison et de dire à mes parents, moi, je veux travailler, bûcheron, n'importe quoi, mais je ne veux plus étudier. Mais le hockey en particulier, mais d'autres sports, j'ai beaucoup joué au basketball, à la balle molle et au baseball. Et tout ça m'a gardé en vie. J'étais maniaque des sports, maniaque du hockey. Je joue au hockey à un assez haut niveau. L'équipe qu'on avait au séminaire Saint-Georges dans les 2 dernières années était très forte. Et on allait jouer aux États-Unis, on allait jouer un peu partout. J'étais gardien de but, j'ai adoré l'expérience. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire quand j'ai dit à ma mère à 16-17 ans, je ne veux pas devenir prêtre. Elle a quasiment fait une syncope. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux faire un joueur de hockey. Elle a dit, non, 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 sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux faire un joueur de hockey. Et c'était la même chose, Armand, quand je lui ai annoncé que je n'irais pas à l'université, mais que je ferais plutôt un cours d'annonceur pour devenir annonceur. Encore là, elle m'a dit, tu penses pas que tu devrais trouver un vrai métier et arrêter de niaiser avec des histoires de rêveurs, de joueurs de hockey ou d'annonceurs de radio. Et la première fois qu'elle m'a entendu à la radio, elle a changé d'idée. Elle est devenue ma plus grande fan.
Depuis que je suis né, que je joue au hockey. Comme tous les petits gars dans mon quartier. J'avais de gagner la Coupe Stanley. Mon idole c'était Jean-Claude Tremblay. Je regarde tous les matchs à TV. Entre mon père pis le cavalier. Quand ils sont venus contre les mains, je jouais pour les juniors de Rouen. J'avais pas le meilleur coup de patin, mais je travaillais fort dans les coins. J'étais jeune pis j'avais peur de rien. J'ai signé pour les Canadiens. Tu venais me voir jouer presque tout le temps. Mais je jouais pas souvent, je réchauffais le banc. Tu rêvais d'avoir des enfants. Je t'ai marié en deux coupes Stanley. Pour le meilleur et pour le pire. T'allais devenir veuve du hockey. Les enfants se dépêchaient. Pour voir leur père jouer à TV. En espérant le voir compter. D'octobre aux éliminatoires. Tu as levé une patinoire. Je traversais les États sans les croire. Je pense plus rien qu'à mes genoux. J'ai tout le temps peur au mauvais coup. Le monde commence à me crier chou. École, les enfants se font niaiser. C'est dur pour eux autres comme pour moi. Leur père sera jamais comme débarqué, je les ai accrochés. Ouais. Et t'es plus une veuve du hockey. Être échangé, c'était pas pour moi. À Sarge, une taverne dans Villeray. Des fois, j'aimerais le dire à TV. Ce que c'est pour vrai jouer au hockey. Ce que c'est pour vrai jouer au hockey.
Hockey, la chanson de Beau Dommage qu'on vient d'entendre est proposée par Daniel Lessard, qui fut journaliste à Radio-Canada, qui est notre invité aujourd'hui. Puisqu'on parlait de hockey, que votre maman était par la suite votre grande fan comme lorsque vous êtes devenu annonceur, Vous êtes un grand fan de hockey aussi et vous soutenez une équipe et c'est pas le Canadien de Montréal.
Je n'ai jamais été partisan du Canadien de Montréal, Armand, plus par esprit de contradiction, mais quand je joue au hockey, mon idole, c'était Glenn Hall, gardien de but des Blackhawks de Chicago. Mes collègues de l'équipe m'avaient baptisé Glenn Hall. Alors, j'ai toujours été partisan de Chicago jusqu'à ce que les sénateurs reviennent à Ottawa. C'est un peu pathétique dans les premières années, les deux, trois dernières années, mais cette année, ils ont une équipe très jeune, absolument excitante, où je me propose d'aller les voir à quelques reprises. Mais je viens encore pour le hockey depuis... Je dirais 30 ans, je dirige un pool de hockey. La composition a évolué au cours des années. Des gens sont arrivés, sont partis. Mais on est une vingtaine. On met chacun une assez bonne somme d'argent. On choisit 12 joueurs. C'est un rituel. Et pendant toute l'année, je suis le hockey de très, très près. J'adore encore le hockey.
Alors, pour ceux qui soutiennent les Canadiens de Montréal, qui est une espèce d'équipe emblématique, vous pourriez vous retrouver seul dans votre petit coin. C'est peut-être la raison de la prochaine chanson de Reggiani. Ma solitude.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec la solitude. Non, 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 je ne serai jamais seul avec ma solitude.
Ma solitude, Serge Reggiani, on badinait un peu avec ce titre. Il y avait une raison particulière pour ce choix?
J'adore Serge Reggiani. Avec Aznavour, ça fait partie de mes préférés. Enfin, Brel, Ferré et tous ces gens-là. Je suis un maniaque. J'ai plusieurs enregistrements de vieilles chansons françaises, enfin vieilles chansons françaises de mon époque, Jean Ferrat, etc. Ouais. Même Adamo, sur lequel j'ai dansé mes premiers slows. Mais Reggiani, il y a quelque chose de spécial. J'ai toujours admiré ce bonhomme-là. Je l'ai d'abord découvert comme comédien. Il était absolument génial dans plusieurs films. Et ensuite, comme chanteur, il a repris beaucoup des chansons de Moustaki, mais c'est quelqu'un que j'écoute encore hier. J'écoutais des chansons de Reggiani mêlées à d'autres chansons, et ça reste comme la chanson de l'Italien est une chanson absolument magnifique. Il y en a plusieurs, la quarantaine.
Vous parliez de vos premiers slows, vous avez parlé aussi de cette visée qu'avait votre maman de vous voir devenir peut-être prêtre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a probablement empêcher ou briser cette vocation. Elle avait pour nom Lucille ou quelque chose
exact,
du genre.
Exact, ma voisine.
Votre voisine.
Ouais. Pendant presque 6 mois, on se faisait des bye-bye de loin. On se parlait même pas, j'osais pas, j'étais trop gêné, elle aussi. Et puis finalement, on a fini par avoir une espèce de relation très très sobre, très saine à l'époque. Vous savez, on faisait pas de folie. Et le malheur, c'est que en septembre, moi, je suis parti pour retourner au séminaire Saint-Georges, à mon pensionnat, et elle s'est fait un nouveau job. Mais ça m'avait permis de comprendre que je ne voulais pas devenir prêtre, absolument pas. Et que je voulais vivre une vie, j'allais dire normale, mais vous savez ce que je veux dire, une vie en couple comme mes parents l'avaient été et comme mes amis l'étaient. Et tout le monde a compris ça. C'était un peu difficile au début, parce que le curé qui m'avait envoyé au séminaire, lui, se foutait pas mal de mes amours, mais il avait fini par comprendre, puis j'ai pu terminer mon cours classique et sans problème.
Et comme bien des gens de cette époque, il y a eu Lucille, il y a eu Bibiane, il y a eu Aline, il y a eu Jeanne et bien d'autres. On pourrait tout dire sans rien dire. Voici la chanson de Daniel Bélanger.
Si jamais on te demande où je suis passé, c'est facile. Des tours sans rien dire, ou mens sans mentir. Dis pas surtout combien j'ai peur. Ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Des tours sans mentir. Je fais horaire chaque nuit le même, et dans ce rêve tout est plus réel et plus terrestre. Je me vois tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais tu fais un vœu, sous une étoile filante, ferme les paupières. Pense à moi, ton frère. Vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Si je suis fou comme je pense, reste là.
Daniel Lézard, on vient d'entendre Daniel Bélanger, on parlait de ses premières amours. Qu'est-ce qui vous a incité par la suite à bifurquer et aller prendre un cours d'annonceur?
J'avais, au village, chez moi, Et le curé demandait parfois au servant de messe que j'ai été, mais plus tard aussi étudiant du séminaire, le dimanche, de lire l'épître devant l'assemblée des fidèles. Et au début, j'étais un peu nerveux, mais j'ai fini par beaucoup aimer ça, beaucoup aimer le son de ma voix, beaucoup aimer d'avoir toute l'attention portée sur moi. Et vous savez, dans ce métier-là, on a des égos surdimensionnés. Et je me suis dit, merde, j'aimerais ça devenir annonceur de radio. Alors, une fois mon cours classique terminé, je me suis inscrit au Collège des annonceurs de Québec, qui était dirigé par Roger Gagnon de CKCV et Jean Fortin de Radio-Canada. Ça durait 6 mois, 2 soirs par semaine. On était 32. Je pense que je suis le seul qui a réussi, qui a percé. Il y avait une duchesse du carnaval qui était dans le groupe, en tout cas. Je ne veux pas être méprisant, mais beaucoup de gens qui, visiblement, avaient choisi le mauvais métier. Mais bon, c'est comme ça que je suis devenu annonceur. Et tout de suite, on m'a dit... Monsieur Gagnon m'a dit, écoute, tu vas envoyer un enregistrement dans 4 ou 5 stations de radio. Là, il y a des bonnes chances qu'ils t'engagent. Et j'ai eu 2 réponses positives, une de Gravelbourg et l'autre de CKBM Montmagny. J'ai cherché Gravelbourg sur la carte du Québec, ne l'ai pas trouvé.
Saskatchewan.
J'ai dit, merde, ben oui. Et quand j'ai finalement su que c'était en Saskatchewan, j'ai dit, bon, ben ça va faire, là, le tourisme. J'ai opté pour CKBM Montmagny, où j'ai commencé comme annonceur. Et où j'ai appris le métier, mais je ne suis pas resté très longtemps. J'ai fait 5 mois comme annonceur. J'ai eu une proposition pour venir dans la station de Radio Mutuelle à Ottawa, c'est JRC. Je devais remplacer un annonceur qui, quand je suis arrivé, ne partait plus. Et le patron m'a dit, écoute, on a un poste de journaliste d'ouvert, c'est ce qu'on va te donner. J'ai dit, moi, je ne vais pas devenir journaliste, ça ne m'intéresse pas du tout, pas ce que je veux faire dans la vie. Reportage, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, écoute, c'est tout ce qu'on a, tu le prends, tu t'en vas. Alors, je l'ai pris à l'essai, et puis, je ne savais pas conduire, on m'a fait apprendre à conduire, je suis devenu reporter aux faits divers, et j'ai beaucoup aimé ça. Les incendies, les meurtres. Le premier reportage que j'ai fait, c'est une madame qui avait perdu son boa constrictor dans les ravalements de sa maison. Oui, moi, j'ai une sainte frousse des reptiles, de tout ce qui rampe. Alors, ça avait été un reportage un peu pénible. Quand ils l'ont finalement attrapé, moi, j'étais prêt à partir puis à passer à autre chose. Mais ça a été de très bonnes écoles. Comme je suis resté à peu près un an à CJRC, j'ai eu une offre d'aller à la radio privée à Montréal, à CKAC, qui était la radio à l'époque, en 1970. Mmh. Je suis arrivé là en plein drame de la crise d'octobre, où CKAC était la boîte à lettres du FLQ.
Exact. Donc, avec CKLM, donc, si vous vous souvenez bien.
Oui, avec Pasco à CKLM, ouais. Oui. Et je suis tombé, on m'a fait travailler la nuit et le matin. Le matin, très tôt, c'est Louis Fournier qui rentrait. Louis qui, bon, a fait carrière par la suite à la radio de Radio-Canada, à la FTQ, qui avait été arrêté pendant la crise d'octobre en vertu, oui, de la loi des mesures de guerre, mais qui avait été un compagnon fantastique, qui m'a vraiment fait découvrir ce métier-là et qui m'a expliqué des tonnes de choses. Et c'est là que je suis devenu vraiment journaliste.
Parfait. Au cas où vous auriez encore des regrets de ne pas avoir choisi la vocation, on va se retremper dans une atmosphère un peu d'église. En fait, on va écouter la Vergine degli Angeli, extrait de l'opéra La Forza del Destino de Giuseppe Verdi. La création de cet opéra en 4 actes a eu lieu, croyez-le ou pas, à Saint-Pétersbourg et non pas en Italie en 1862. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, Daniel, c'est une version complètement remaniée par Verdi lui-même, qui a été présentée à la Scala de Milan le 27 février 1869. On dit de cette œuvre qu'elle comporte plusieurs situations dramatiques avec romantisme, passion, intériorité, désespoir. En fait, les sentiments qui vous ont probablement habité vous-même.
À certaines reprises, oui, absolument.
Alors, on écoute le groupe Quartum.
Protegga Virgine
On vient d'entendre la Vergine degli Angeli de Verdi interprétée par le groupe Quartum, formé de Gaëtan Sauvageau, ténor, Philippe Martel, baryton basse, Julien Patenaude, baryton, et Benoît Leblanc, baryton. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'entendre ce groupe, mais ce sont quatre jeunes vraiment très talentueux qui font une belle carrière au plan du chant lyrique.
L'œuvre, oui, Armand, mais pas par ces gens-là. Je ne pourrais pas dire qui c'était. Mais j'ai déjà entendu, c'est magnifique. Et d'ailleurs, Saint-Pétersbourg, tu me rappelles, je suis allé là dans une de mes nombreuses couvertures avec le premier ministre Ryan Mulroney, et on était allé au fameux musée. On ne pensait pas y aller. Mulroney, l'entourage de Mulroney avait dit, écoutez, on peut aller là, est-ce que ça vous tente? Il y a pas beaucoup de gens à qui ça tentait. Moi, j'avais levé la main, j'avais dit oui. J'étais avec ma collègue Francine Bastien, et finalement, on était allé. Ils étaient absolument magnifiques.
Oui, le musée, vous parlez du musée de l'Ermitage.
De l'Ermitage,
oui, absolument. Qui est en fait l'équivalent du Louvre. C'est vraiment un musée gigantesque avec des œuvres formidables. Ouais. Dites-moi, vous parliez du premier ministre Brian Mulroney. En carrière, comme correspondant, vous en avez connu quelques-uns des premiers ministres?
Ça a commencé avec Joe Clark, qui est resté longtemps. Pierre-Éliott Trudeau, qui est revenu pendant 4 ans. Qui a été remplacé par John Turner pas très longtemps, qui a été défait par Brian Mulroney, qui a été remplacé par Kim Campbell, qui a été battu par Jean Chrétien, battu, c'est un très mauvais choix de mots, défaite par Jean Chrétien.
Oui.
Chrétien, Paul Martin, Stephen Harper, Justin Trudeau. Ça fait combien?
Ça fait 9.
Justin Trudeau, je l'ai pas couvert de près. Justin Trudeau, chaque fois que je l'ai vu, il avait 8 ou 9 ans, et il voyageait avec son père entre 1980 et 1984, où son père le disputait régulièrement en lui disant « Justin, t'as pas de bonne manière, c'est pas comme ça qu'on se comporte. » Ma caméra avait capté ça une ou deux fois. La deuxième fois, il m'avait demandé de ne pas l'utiliser parce que, bon, c'était un peu sorti hors contexte.
Oui.
Mais bon.
Ouais. Le papa a peut-être dit à son fils « Just watch me ».
Non, c'est un peu plus rude que ça, et c'est en français en plus.
Ouais. Et présentez-moi la prochaine chanson de Brel.
Voir un ami pleurer, ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup d'amis, j'ai encore beaucoup d'amis, j'en ai perdu en cours de route. Un ou deux en particulier où ça a été très, 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 très douloureux. Un avec qui j'ai beaucoup joué au hockey, qui s'appelait Jacques Beaulé, pour ne pas le nommer, qui est mort bêtement dans un accident à Montréal, et deux ou trois autres. Et cette chanson de Brel me rappelle toujours ces gens-là. Je l'écoute de temps en temps, enfin, comme j'écoute les autres chansons de Brel, mais celle-là en particulier vient me chercher.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ses enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer.
Voir un ami pleurer, Jacques Brel, le choix de notre invité, Daniel Lessard, que tout le monde a apprécié comme journaliste. Ce qu'on peut, et je le disais en début d'émission, en présentation, ce qu'on peut reconnaître chez vous, c'était cette extrême rigueur et surtout cette approche pédagogique, parce que les enjeux étaient complexes au moment où vous avez exercé le métier. On pense à tous ces débats constitutionnels qui n'étaient pas simples et que vous réussissiez à nous faire comprendre par la magie des mots, par la synthèse que vous étiez capable de faire de ces enjeux complexes.
Ouais. Il y a toutes sortes de journalistes. Il y en a des bons et des mauvais, mais il y a des journalistes de scoop qui peuvent passer des jours et des semaines pour trouver la nouvelle. Mon ami Normand Lesserre est un bon exemple. Moi, j'ai eu quelques scoops dans ma carrière, mais c'était pas le travail qu'on me demandait de faire.
C'est vous étiez un journaliste de fond, un journaliste.
Moi,
de fond.
Quand Marcel Desjardins, le chef des nouvelles, m'a dit, quand je suis arrivé à la télé en 80-81, Marcel m'a dit, tu vas faire tes classes. J'avais fait un peu de Radio-Canada avant, mais on veut que tu deviennes analyste, que tu t'assoies avec des hommes chaque fois qu'il y a de gros événements sur la scène fédérale et que tu les commentes. Il faut que tu apprennes sérieusement, très sérieusement, les différences entre un analyste et un commentateur. Tu n'es pas commentateur, tu es analyste. Jusqu'où tu peux aller comme analyste, on va s'occuper de ça ensemble. Et il avait été très bon. Et c'est ce que j'ai fait surtout. Ce que j'aimais, c'était d'expliquer des choses compliquées. Société distincte, ça va, tout le monde comprenait ça, mais droit de retrait avec compensation, le veto, les clauses compensatoires, toutes ces chinoiseries-là, c'était pas toujours évident à utiliser, à expliquer. Et mon baromètre, Armand, c'était, tous les dimanches, j'appelais ma mère, et là, à part commenter sur ma cravate ou sur ma coupe de cheveux, me disait tout le temps, ton reportage, je lui dis, j'ai rien compris. Et ma mère, c'est pas une imbécile, elle avait été maîtresse d'école, elle a eu 10 enfants, elle lisait l'Action catholique à tous les jours. Et quand elle me disait qu'elle n'avait pas compris, je me disais, OK, bon, ben on va simplifier ça encore davantage, sans tomber dans le simplisme, sans tomber dans la facilité, mais expliquer ces choses-là aux gens pour qu'ils comprennent. Et c'est pas toujours évident. Et c'était pas évident, là où j'avais beaucoup de difficultés aussi, Armand, c'est en économie. Pas très bon là-dedans, je sais compter, mais c'est à peu près tout. Et quand tu sortais d'un budget où il y avait plein de choses nouvelles ou compliquées, ça a été mes plus grands cauchemars. Je m'en tenais à l'essentiel, mais vraiment à l'essentiel. Je disais à De Rome, ne me pose pas de questions compliquées, demande-moi pas d'expliquer telle ou telle chose, je la comprends pas, fais ça avec ton invité qui est un économiste. Mais c'est ce que j'ai toujours adoré faire, expliquer simplement les choses.
Et vous l'avez bien fait. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine chanson. Une raison pour ce choix de Claude Dubois.
Si Dieu existe, j'aime bien la chanson, j'aime bien Claude Dubois. Je me suis longtemps posé des questions sur la religion, sur Dieu, est-ce que ça existe? Au collège classique, vous le savez, on baignait dans la religion, c'est 2-3 heures par jour. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, merde, je ne veux plus rien savoir de ça. La vie, c'est la vie. Quand elle est finie. Et quand, dans les 3 dernières années, j'ai perdu 3 êtres chers, un frère, une sœur et ma première conjointe, et quand j'ai commencé à penser que la mort rôdait un peu trop autour de moi, je me suis demandé où ils sont ces gens-là maintenant, pourquoi je ne peux pas communiquer avec eux, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont complètement dissous dans l'atmosphère, il n'en reste plus rien. J'ai commencé à me poser des questions, mais pas, c'est pas maladif, c'est pas obsessif, mais j'aime croire qu'il y a quelque chose après la vie. N'importe quoi, mais qu'il y a quelque chose.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, le visage à l'envers, tout petit, tout petit. Regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages.
Dieu existe, Claude Dubois, proposé par Daniel Lessard. Vous disiez que vous aimez croire qu'il y a quelque chose. Donc, d'une certaine façon, on dit souvent que le doute alimente la foi. Vous êtes croyant.
Je veux croire qu'il existe une vie après la vie. C'est que ça s'appelle le bon Dieu, Mahomet, peu importe ça, je trouve que c'est des symboles, puis c'est des sources de chicane, bien plus qu'autre chose, mais qu'il y a une vie quelconque après. J'arrive pas à l'imaginer. Je me dis pourquoi, s'il y a une vie après, les gens qu'on a aimés sont disparus complètement et puis on n'a aucun signe d'eux. Écoutez, j'en fais pas une maladie. J'ai 75 ans, il m'arrive à l'occasion de penser à la mort. J'ai beaucoup pensé depuis 3 ans avec le départ de mon frère, de ma sœur et de mon ex-conjointe. Et il m'arrive, je vais vous raconter une histoire amusante, je suis un grand amateur de jardinage. Et cette année, il y a une pivoine que je voulais absolument acheter, qui coûte une fortune, que j'ai fait venir d'Europe. Une folie. Mais là, je me suis dit, au-delà de la folie, puis ça, je l'assume, puis je vis très bien avec ça, je me suis dit, merde, pivoine, ça prend de 3 à 5 ans avant d'atteindre sa maturité et d'être vraiment belle. Je dis, est-ce que je suis encore vivant dans 5 ans? Et là, je me suis surpris à me poser ce genre de questions-là, en me disant, ben, je ne vais pas arrêter de vivre au cas où. Là. Je vais prendre ça une année à la fois. Puis si j'en vis 5, j'en vivrai 5. Si j'en vis 10, ça sera 10, en autant que je sois en santé, en bonne santé mentale et physique. Je suis prêt à continuer un grand bout de temps parce que j'adore la vie.
Et la vie, c'est quelque chose qui passe tellement rapidement qu'on veut que l'amour soit toujours présent. Et c'est probablement un bel enchaînement que vous nous proposez avec Céline Dion pour que tu m'aimes encore.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges, je ferai nos bagages, pour d'infinis vendanges.
Daniel Lessard est avec nous. Daniel, le temps nous bouscule déjà très rapidement. Je vais vous demander, est-ce que vous seriez disponible à nous revenir la semaine prochaine?
Avec plaisir.
Alors, on va pouvoir poursuivre la semaine prochaine. Mais avant qu'on se quitte dans le cadre de cette première émission, parce que vous parliez justement de ces enjeux complexes que vous avez abordés, est-ce que pour vous, pendant la période où il y avait ces nombreux débats constitutionnels, il vous arrivait parfois de vous dire « c'est du charabia, je n'y comprends plus rien ».
Je n'y comprends plus rien, non, c'est jamais allé aussi loin. C'est beaucoup plus comment je vais expliquer la clause nonobstant, comment je vais expliquer le droit de retrait ou le veto, le droit de retrait avec compensation ou pas. De façon simple, parce qu'en télévision, tu essaies toujours de t'accrocher à l'image, puis l'image souvent parle plus que toi. Mais la société distincte ou la clause nonobstant, il n'y a pas d'image de ça. Ça ne s'illustre pas. C'est ta tête à toi, c'est toi que les gens écoutent, ils ne regardent rien d'autre que toi, puis ils disent de quoi ils parlent, ça. Là. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de sauter dans le vide et d'avoir très peur. Une fois, quand la Cour suprême avait rendu sa décision sur la validité d'un référendum québécois, etc., et que la Cour avait dit « oui, le Québec peut se séparer »,« oui, il faut une majorité suffisante sans la définir, il faut une question claire sans la définir ». Et on était en onde en direct, et de Rome, et le réalisateur m'avait dit « écoute, dès que tu as le jugement, tu t'en viens en onde, il faut qu'on soit les premiers là-dessus, et blablabla, bla, bla, et blablabla bla, ». Bla. Sauf que c'est 50 pages de jugement,
oui.
Là.
Mais ça démontre bien ce qu'est le stress de ce métier, où il faut constamment être à l'affût de tout ce qui se passe, tout ce qui peut venir modifier, de quelque manière que ce soit, une politique, un avis, une sorte de position à l'égard des négociations que peuvent entreprendre les gouvernements provinciaux entre eux vis-à-vis le gouvernement central. Et comme vous dites, et blablabla, et blablabla, mais il faut constamment être curieux, les phares bien allumés, et surtout être toujours à l'écoute de ce qui se passe et à gauche et à droite. Le temps de vous dire qu'à la conception, réalisation et à la technique, c'est celui qui vous parle, Armand Dubois. On se quitte avec une excellente chanson, une très belle chanson. Je sais que vous n'aimez pas Johnny Hallyday, mais il a fait quand même une belle interprétation de cette chanson de Gilbert Bécaud, qui nous parle de l'instant présent d'une certaine manière. Je pense que ça se prête bien. c'est « et maintenant hein, », par rapport à toutes ces questions qu'on évoquait, que ce soit au plan de la foi, au plan de ces enjeux qui continuent quand même de rester complexes dans notre société. On va entendre cette chanson de Déco, mais interprétée par Johnny Hallyday. On se dit la semaine prochaine, Daniel. Merci beaucoup.
Au revoir.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pour toi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, oh, trop fort. Maintenant, oui, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, tu sais, c'est tout petit. Pour mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien, et même Paris crève d'ennui, toutes ces rues. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Et pas une fleur, et pas de pleurs. Au moment de l'adieu. N'en plus rien à faire, je l'ai vraiment. N'en plus.